Chapitre 2 L'amour dans la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin. Partie 1 Ici Balzac entreprend un long excursus critique sur l'histoire politique de la famille des Bourbons. J'ai artificiellement isolé cette parenthèse politique, que j'ai nommée Partie 1, pour laisser au lecteur la liberté de passer cette parenthèse politique sans que cela nuise à la continuité du récit. Ce que l'on nomme en France le faubourg Saint-Germain n'est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place royale, le faubourg Saint-Honoré, la chaussée d'Antin possèdent également des hôtels où se respire l'air du faubourg Saint-Germain. Ainsi, déjà tout le faubourg n'est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s'agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies. Les manières, le parler, en un mot, la tradition faubourg Saint-Germain est à Paris depuis environ 40 ans ce que la cour y était jadis, ce qu'était l'hôtel Saint-Paul dans le XIVe siècle, le Louvre au XVe, le palais, l'hôtel Rambouillet, la place royale au XVIe, puis Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. À toutes les phases de l'histoire, le Paris de la haute classe et de la noblesse a eu son centre, comme le Paris vulgaire aura toujours le sien. Cette singularité périodique offre une ample matière aux réflexions de ceux qui veulent observer ou peindre les différentes zones sociales. Et peut-être ne doit-on pas en rechercher les causes seulement pour justifier le caractère de cette aventure, mais aussi pour servir à de graves intérêts, plus vivaces dans l'avenir que dans le présent, si toutefois l'expérience n'est pas un non-sens pour les partis comme pour la jeunesse. Les grands seigneurs et les gens riches, qui signeront toujours les grands seigneurs, ont, à toutes les époques, éloigné leurs maisons des endroits très habités. Si le duc d'Uzès se bâtit sous le règne de Louis XIV, le bel hôtel à la porte duquel il mit la fontaine de la rue Montmartre, acte de bienfaisance, qui le rendit, outre ses vertus, l'objet d'une vénération si populaire, que le quartier suivit en masse son convoi, ce coin de Paris était alors désert. Mais aussitôt que les fortifications s'abattirent, que les marais situés au-delà des boulevards s'emplirent de maisons, la famille d'Uzès quitta ce bel hôtel, habité de nos jours par un banquier. Puis la noblesse, compromise au milieu des boutiques, abandonna la place royale, les alentours du centre parisien, et passa la rivière afin de pouvoir respirer à son aise dans le faubourg Saint-Germain, où déjà des palais s'étaient levés autour de l'hôtel bâti par Louis XIV au duc de Maine, le Benjamin de ses légitimés. Pour les gens accoutumés aux splendeurs de la vie, est-il en effet rien de plus ignoble que le tumulte, la boue, les cris, les mauvaises odeurs, l'étroitesse des rues populeuses? Les habitudes d'un quartier marchand ou manufacturier ne sont-elles pas constamment en désaccord avec les habitudes des grands? Le commerce et le travail se couchent au moment où l'aristocratie songe à dîner. Les uns s'agitent bruyamment quand l'autre se repose. Leurs calculs ne se rencontrent jamais, les uns sont la recette et l'autre la dépense. De là les mœurs diamétralement opposées. Cette observation n'a rien de dédaigneux, une aristocratie est en quelque sorte la pensée d'une société, comme la bourgeoisie et les prolétaires en sont l'organisme et l'action. De là des sièges différents pour ces forces, et de leur antagonisme vient une antipathie apparente que produit la diversité de mouvements faite néanmoins dans un but commun. Ces discordances sociales résultent si logiquement de toute charte constitutionnelle que le libéral le plus disposé à s'en plaindre, comme d'un attentat envers les sublimes idées sous lesquelles les ambitieux des classes inférieures cachent leurs desseins, trouverait prodigieusement ridicule à Monsieur le Prince de Montmorency de demeurer rue Saint-Martin, au coin de la rue qui porte son nom, ou à Monsieur le Duc de Fitz James, le descendant de la place royale écossaise, d'avoir son hôtel rue Mary Stuart, au coin de la rue Montorgueil. Sint ut sunt, aut non sint. Ces belles paroles pontificales peuvent servir de devise aux grands de tous les pays. Ce fait, patent à chaque époque, est toujours accepté par le peuple, porte en lui des raisons d'État. Il est à la fois un effet et une cause, un principe et une loi. Les masses ont un bon sens qu'elles ne désertent qu'au moment où les gens de mauvaise foi les passionnent. Ce bon sens repose sur des vérités d'un ordre général, vraies à Moscou comme à Londres, vraies à Genève comme à Calcutta. Partout, lorsque vous rassemblez des familles d'inégale fortune sur un espace donné, vous verrez se former des cercles supérieurs, des patriciens, des premières, secondes et troisièmes sociétés. L'égalité sera peut-être un droit, mais aucune puissance humaine ne saurait le convertir en fait. Il serait bien utile pour le bonheur de la France d'y populariser cette pensée. Aux masses les moins intelligentes se révèlent encore les bienfaits de l'harmonie politique. L'harmonie est la poésie de l'ordre, et les peuples ont un vif besoin d'ordre. La concordance des choses entre elles, l'unité, pour tout dire en un mot, n'est-elle pas la plus simple expression de l'ordre? L'architecture, la musique, la poésie, tout dans la France s'appuie, plus qu'en aucun autre pays, sur ce principe, qui d'ailleurs est écrit au fond de son clair et pur langage. Et la langue sera toujours la plus infaillible formule d'une nation. Aussi, voyez-vous le peuple y adoptant les airs les plus poétiques, les mieux modulés, s'attachant aux idées les plus simples, aimant les motifs incisifs qui contiennent le plus de pensées. La France est le seul pays où quelques petites phrases puissent faire une grande révolution. Les masses ne s'y sont jamais révoltées que pour essayer de mettre d'accord les hommes, les choses et les principes. Or, nulle autre nation ne se sent mieux la pensée d'unité qui doit exister dans la vie aristocratique, peut-être parce que nul autre n'a mieux compris les nécessités politiques. L'histoire ne la trouvera jamais en arrière. La France est souvent trompée, mais comme une femme l'est, par des idées généreuses, par des sentiments chaleureux dont la portée échappe d'abord au calcul. Ainsi déjà, pour premier trait caractéristique, le faubourg Saint-Germain a la splendeur de ses hôtels, ses grands jardins, leur silence, jadis en harmonie avec la magnificence de ses fortunes territoriales. Cet espace, mis entre une classe et toute une capitale, n'est-il pas une consécration matérielle des distances morales qui doivent les séparer? Dans toutes les créations, la tête a sa place marquée. Si par hasard une nation fait tomber son chef à ses pieds, elle s'aperçoit tôt ou tard qu'elle s'est suicidée. Comme les nations ne veulent pas mourir, elle travaille alors à se refaire une tête. Quand la nation n'en a plus la force, elle périt, comme ont péri Rome, Venise et tant d'autres. La distinction introduite par la différence des mœurs entre les autres sphères d'activité sociale et la sphère supérieure implique nécessairement une valeur réelle, capitale, chez les sommités aristocratiques. Dès qu'en tout état, sous quelque forme qu'affecte le gouvernement, les patriciens manquent à leurs conditions de supériorité complète. Ils deviennent sans force, et le peuple les renverse aussitôt. Le peuple veut toujours leur voir aux mains, au cœur et à la tête la fortune, le pouvoir et l'action, la parole, l'intelligence et la gloire. Sous cette triple puissance, tout privilège s'évanouit. Les peuples, comme les femmes, aiment la force en quiconque les gouverne, et leur amour ne va pas sans le respect. Ils n'accordent point leur obéissance à qui ne l'impose pas. Une aristocratie mésestimée est comme un roi fainéant, un mari en jupon. Elle est nulle avant d'être rien. Ainsi, la séparation des grands, leurs mœurs tranchées, en un mot, le costume général des castes patriciennes, est tout à la fois le symbole d'une puissance réelle et les raisons de leur mort quand elles ont perdu la puissance. Le faubourg Saint-Germain s'est laissé momentanément abattre pour n'avoir pas voulu reconnaître les obligations de son existence qu'il lui était encore facile de perpétuer. Il devait avoir la bonne foi de voir à temps, comme le vit l'aristocratie anglaise, que les institutions ont leurs années climatériques, où les mêmes mots n'ont plus les mêmes significations, où les idées prennent d'autres vêtements, où les conditions de la vie politique changent totalement de forme, sans que le fond soit essentiellement altéré. Ces idées veulent des développements qui appartiennent essentiellement à cette aventure dans laquelle ils entrent, et comme définition des causes, comme explication des faits. Le grandiose des châteaux et des palais aristocratiques, le luxe de leurs détails, la somptuosité constante des ameublements, l'air dans laquelle s'y meut sans gêne et sans éprouver de froissement l'heureux propriétaire, riche avant de naître, puis l'habitude de ne jamais descendre au calcul des intérêts journaliers et mesquins de l'existence, le temps dont il dispose, l'instruction supérieure qu'il peut prématurément acquérir, enfin, les traditions patriciennes qui lui donnent des forces sociales que ses adversaires compensent à peine par des études, par une volonté, par une vocation tenace, tout devrait élever l'âme de l'homme qui, dès le jeune âge, possède de tels privilèges, lui imprimer ce haut regard de lui-même dont la moindre conséquence est une noblesse de cœur en harmonie avec la noblesse du nom. Cela est vrai pour quelques familles. Ça et là, dans le faubourg Saint-Germain, se rencontrent de beaux caractères, exceptions qui prouvent contre l'égoïsme général qui a causé la perte de ce monde à part. Ces avantages sont acquis à l'aristocratie française comme à toutes les efflorescences patriciennes qui se produiront à la surface des nations aussi longtemps qu'elles assieront leur existence sur le domaine. Le domaine sol, comme le domaine argent, seule base solide d'une société régulière. Mais ces avantages ne demeurent aux patriciens de toutes sortes qu'autant qu'ils maintiennent leurs conditions auxquelles le peuple les leur laisse. C'est des espèces de fiefs moraux dont la tenue oblige envers le souverain, et ici le souverain est certes aujourd'hui le peuple. Les temps sont changés, et aussi les armes. Le banneret à qui suffisait jadis de porter la cotte de maille, le haubert, de bien manier la lance et de montrer son pennon, doit aujourd'hui faire preuve d'intelligence, et là où il n'était besoin que d'un grand cœur, il faut de nos jours un large crâne. L'art, la science et l'argent forment le triangle social où s'inscrit l'écu du pouvoir et où doit procéder la moderne aristocratie. Un beau théorème vaut un grand nom. Les Rothschild, ces Fugger modernes, sont princes de fait. Un grand artiste est réellement oligarque. Il représente tout un siècle et devient presque une loi. Ainsi, le talent de la parole, les machines à haute pression de l'écrivain, le génie du poète, la constance du commerçant, la volonté de l'homme d'État qui concentre en lui mille qualités éblouissantes, le glaive du général, ses conquêtes personnelles faites par un seul sur toute la société pour lui imposer, la classe aristocratique doit s'efforcer d'en avoir aujourd'hui le monopole comme jadis elle avait celui de la force matérielle. Pour rester à la tête d'un pays, il ne faut pas être toujours digne de le conduire, en être l'âme et l'esprit, pour en faire agir les mains. Pour rester à la tête d'un pays, ne faut-il pas toujours être digne de le conduire, en être l'âme et l'esprit, pour en faire agir les mains? Comment mener un peuple sans avoir les puissances qui font le commandement? Qui serait le bâton des maréchaux sans la force intrinsèque du capitaine qui le tient à la main? Le faubourg Saint-Germain a joué avec des bâtons en croyant qu'ils étaient tout le pouvoir. Il avait renversé les termes de la proposition qui commande son existence. Au lieu de jeter les insignes qui choquaient le peuple et de garder secrètement la force, il a laissé saisir la force à la bourgeoisie, s'est cramponné fatalement aux insignes et a constamment oublié les lois que lui imposait sa faiblesse numérique. Une aristocratie, qui personnellement fait à peine le millième d'une société, doit aujourd'hui, comme jadis, y multiplier ses moyens d'action pour y opposer, dans les grandes crises, un poids égal à celui des masses populaires. De nos jours, les moyens d'action doivent être des forces réelles et non des souvenirs historiques. Malheureusement, en France, la noblesse encore grosse de son ancienne puissance évanouie avait contre elle une sorte de présomption dont il était difficile qu'elle se défie. Peut-être était-ce un défaut national. Le Français, plus que tout autre homme, ne conclut jamais en dessous de lui. Il va du degré sur lequel il se trouve au degré supérieur. Il plaint rarement les malheureux au-dessus desquels il s'élève. Il gémit toujours de voir tant d'heureux au-dessus de lui. Quoiqu'il ait beaucoup de cœur, il préfère trop souvent écouter son esprit. Cet instinct national qui fait toujours aller les Français en avant, cette vanité qui ronge leur fortune et les régit aussi absolument que le principe d'économie régit les Hollandais, a dominé depuis 3 siècles la noblesse qui, sous ce rapport, fut éminemment française. L'homme du faubourg Saint-Germain a toujours conclu de sa supériorité matérielle en faveur de sa supériorité intellectuelle. Tout, en France, l'a convaincu parce que depuis l'établissement du faubourg Saint-Germain, révolution aristocratique commencée le jour où la monarchie quitta Versailles, le faubourg Saint-Germain s'est, sauf quelques lacunes, toujours appuyé sur le pouvoir qui sera toujours en France plus ou moins faubourg Saint-Germain, comme la date de sa défaite en 1830. À cette époque, il était comme une armée opérant sans avoir de base. Il n'avait point profité de la paix pour s'implanter dans le cœur de la nation. Il péchait par un défaut d'instruction et par un manque total de vue sur l'ensemble de ses intérêts. Il tuait un avenir certain au profit d'un présent douteux. Voici peut-être la raison de cette fausse politique. La distance physique et morale de ses supériorités s'efforçait de maintenir entre elles et le reste de la nation. La distance physique et morale que ses supériorités s'efforçaient de maintenir entre elles et le reste de la nation a fatalement eu pour tout résultat, depuis 40 ans, d'entretenir dans la haute classe le sentiment personnel en tuant le patriotisme de caste. Jadis, alors que la noblesse française était grande, riche et puissante, les gentilshommes savaient, dans le danger, se choisir des chefs et leur obéir. Devenus moindres, ils se sont montrés indisciplinaires et, comme le bas empire, chacun d'eux voulait être empereur. En se voyant tous égaux par leur faiblesse, ils se crurent tous supérieurs. Chaque famille ruinée par la révolution, ruinée par le partage égal des biens, ne pensa qu'à elle au lieu de penser à la grande famille aristocratique, et il leur semblait que si toutes s'enrichissaient, le parti serait fort. Erreur. L'argent aussi n'est qu'un signe de la puissance. Composé de personnes qui conservaient les hautes traditions de bonne politesse, d'élégance vraie, de beau langage, de pruderie et d'orgueil noblière, en harmonie avec leur existence, occupation mesquine quand elles sont devenues le principal d'une vie, de laquelle ne doivent être que l'accessoire, toutes ces familles avaient une certaine valeur intrinsèque qui, mise en superficie, ne leur laisse qu'une valeur nominale. Aucune de ces familles n'eut le courage de se dire « Sommes-nous assez fortes pour porter le pouvoir ?» Elles se sont jetées dessus comme firent les avocats en 1830. Au lieu de se montrer protecteur comme un grand, le faubourg Saint-Germain fut avide comme un parvenu. Du jour où il fut prouvé à la nation la plus intelligente du monde que la noblesse restaurée organisait le pouvoir et le budget à son profit, ce jour, elle fut mortellement malade. Elle voulait être une aristocratie quand elle ne pouvait plus être qu'une oligarchie, deux systèmes bien différents, et que comprendra tout homme assez habile pour lire attentivement les noms patronymiques des lords de la chambre haute. Certes, le gouvernement royal eut de bonnes intentions, mais il oubliait constamment qu'il faut tout faire vouloir au peuple, même son bonheur, et que la France, femme capricieuse, veut être heureuse ou battue à son gré. S'il y avait eu beaucoup de ducs de Laval, que sa modestie a fait digne de son nom, le trône de la branche aînée serait devenu solide autant que l'est celui de la maison de Hanovre. En 1814, mais surtout en 1820, la noblesse française avait à dominer l'époque la plus instruite, la bourgeoisie la plus aristocratique, le pays le plus femelle du monde. Le faubourg Saint-Germain pouvait bien facilement conduire et amuser une classe moyenne, ivre de distinction, amoureuse d'art et de science. Mais les mesquins meneurs de cette grande époque intelligentielle haïssaient tous l'art et la science. Ils ne surent même pas présenter la religion, dont ils avaient besoin, sous les poétiques couleurs qu'ils eussent fait aimer. Quand Lamartine, Lamennais, Montalembert et quelque autre écrivain de talent doraient de poésie, rénovaient ou agrandissaient les idées religieuses, tous ceux qui gâchaient le gouvernement faisaient sortir l'amertume de la religion. Jamais nation ne fut plus complaisante. Elle était alors comme une femme fatiguée qui devient facile. Jamais pouvoir ne fit alors plus de maladresse. La femme et la France aiment mieux les fautes. Pour se réintégrer, pour fonder un grand gouvernement oligarchique, la noblesse du faubourg devait se fouiller avec bonne foi afin de trouver en elle la monnaie de Napoléon, s'éventrer pour demander au creux de ses entrailles un riche lieu constitutionnel. Si ce génie n'était pas en elle, aller le chercher jusque dans le froid grenier où il pouvait être en train de mourir, et se l'assimiler, comme la chambre des lords anglais s'assimile constamment les aristocrates de hasard. Puis, ordonner à cet homme d'être implacable, de retrancher les branches pourries, de récéper l'arbre aristocratique. Mais d'abord, le grand système de torysme anglais était trop immense pour de petites têtes, et son importation demandait trop de temps aux Français, pour lesquels une réussite lente vaut un fiasco. D'ailleurs, loin d'avoir cette politique rédemptrice qui va chercher la force là où Dieu l'a mise, ces grandes petites gens haïssaient toute la force qui ne venait pas d'eux. Enfin, loin de se rajeunir, le faubourg Saint-Germain s'était avieilli. L'étiquette, l'institution de seconde nécessité, pouvait être maintenue si elle n'eût paru que dans les grandes occasions. Mais l'étiquette devint une lutte quotidienne, et au lieu d'être une question d'art ou de magnificence, elle devint une question de pouvoir. S'il manqua d'abord au trône un de ses conseillers aussi grand que les circonstances étaient grandes, l'aristocratie manqua surtout de la connaissance de ses intérêts généraux qui auraient pu suppléer à tout. Elle s'arrêta devant le mariage de M. Talleyrand, le seul homme qui eut une de ces têtes métalliques où se forgent à neuf les systèmes politiques par lesquels revirent glorieusement les nations. Le faubourg se moqua des ministres qui n'étaient pas gentilshommes et ne donnaient pas de gentilshommes assez supérieurs pour être ministres. Ils pouvaient rendre des services véritables au pays en ennoblissant les justices de paix, en fertilisant le sol, en construisant des routes et des canaux, en se faisant puissance territoriale agissante. Mais ils vendaient ses terres pour jouer à la bourse. Ils pouvaient priver la bourgeoisie de ces hommes d'action et de talent dont l'ambition minait le pouvoir, en leur ouvrant ses rangs. Il a préféré les combattre, et sans armes, car il n'avait plus qu'en tradition ce qu'il possédait jadis en réalité. Pour le malheur de cette noblesse, il lui restait précisément assez de ses diverses fortunes pour soutenir sa morgue. Contente de ses souvenirs, aucune de ses familles ne songea sérieusement à faire prendre des armes à ses aînés, parmi le fiasco que le XIXe siècle jetait sur la place publique. La jeunesse, exclue des affaires, dansait chez madame au lieu de continuer à Paris par l'influence de talents jeunes, consciencieux, innocents de l'Empire et de la République, l'œuvre que le chef de chaque famille aurait commencée dans les départements en y conquérant la reconnaissance de leurs intérêts locaux, en s'y conformant à l'esprit du siècle, en refondant la caste au joug du temps. Concentré dans son faubourg Saint-Germain, où vivait l'esprit des anciennes oppositions féodales mêlées à celui de l'ancienne cour, l'aristocratie, mal unie au château des Tuileries, fut plus facile à vaincre, n'existant que sur un point et surtout aussi mal constituée qu'elle l'était dans la chambre des pairs. Tissue dans le pays, elle devenait indestructible, acculée dans son faubourg, adossée au château, étendue dans le budget. Il suffisait d'un coup de hache pour trancher le fil de sa vie agonisante, et la plate figure d'un petit avocat s'avança pour donner ce coup de hache. Malgré l'admirable discours de M. Royer-Collard, l'hérédité de la prairie et ses majorats tombèrent sous les pasquinades d'un homme qui se vantait d'avoir adroitement disputé quelques têtes aux bourreaux, mais qui tuait maladroitement de grandes institutions. Il se trouve là des exemples et des enseignements pour l'avenir. Si l'oligarchie française n'avait pas une vie future, il y aurait je ne sais quelle cruauté triste à la guéhenner après son décès, et alors il ne faudrait plus que penser à son sarcophage, mais si le scalpel des chirurgiens est dur à sentir, il rend parfois la vie aux mourants. Le faubourg Saint-Germain peut se trouver plus puissant persécuté qu'il ne l'était triomphant s'il veut avoir un chef et un système. Maintenant, il est facile de résumer cet aperçu semi-politique. Ce défaut de vue large et ce vaste ensemble de petites fautes, l'envie de rétablir de hautes fortunes dont chacun se préoccupait, un besoin réel de religion pour soutenir la politique, une soif de plaisir qui nuisait à l'esprit religieux et nécessita des hypocrisies, les résistances partielles de quelque esprit élevé qui voyait juste et que contrarièrent les rivalités de la cour, la noblesse de province, souvent plus rare de race que ne l'est la noblesse de cour, mais qui, trop souvent froissée, se désaffectionna. Toutes ces causes se réunirent pour donner au faubourg Saint-Germain les mœurs les plus discordantes. Il ne fut ni compact dans son système, ni conséquent dans ses actes, ni complètement moral, ni franchement licencieux, ni corrompu, ni corrupteur. Il n'abandonna pas entièrement les questions qui lui nuisaient et n'adopta pas les idées qui l'eussent sauvé. Enfin, quelque débiles que fussent les personnes, le parti s'était néanmoins armé de tous les grands principes qui font la vie des nations. Or, pour périr dans sa force, que faut-il être? Il fut difficile dans le choix des personnes présentées. Il eut du bon goût, du mépris également. Mais sa chute n'eut certes rien d'éclatant ni de chevaleresque. L'émigration de 89 accusait encore des sentiments. En 1830, l'émigration à l'intérieur n'accuse plus que des intérêts. Quelques hommes illustres dans les lettres, les triomphes de la tribune de M. Talleyrand dans le Congrès, la conquête d'Alger et plusieurs noms redevenus historiques sur les champs de bataille montrent à l'aristocratie française les moyens qui lui restent de se nationaliser et de faire encore reconnaître ses titres, si toutefois elle daigne. Chez les êtres organisés, il se fait un travail d'harmonie intime. Un homme est-il paresseux? La paresse se trahit en chacun de ses mouvements. De même, la physionomie d'une classe d'hommes se conforme à l'esprit général, à l'âme qui en anime le corps. Sous la Restauration, la femme du faubourg Saint-Germain ne déploya ni la fière hardiesse que les dames de la cour portaient jadis dans leur écart, ni la modeste grandeur des tardives vertus par lesquelles elles expiaient leurs fautes et qui répandaient autour d'elles un si vif éclat. Elle n'eut rien de bien léger, rien de bien grave. Ses passions, sauf quelques exceptions, furent hypocrites. Elle transigea, pour ainsi dire, avec leur jouissance. Quelques-unes de ces familles menèrent la vie bourgeoise de la duchesse d'Orléans, dont le lit conjugal se montrait si ridiculement aux visiteurs du palais royal. Deux ou trois à peine continuèrent les mœurs de la régence et inspirèrent une sorte de dégoût à des femmes plus habiles qu'elle. Cette nouvelle grande dame n'eut aucune influence sur les mœurs. Elle pouvait néanmoins beaucoup. Elle pouvait, en désespoir de cause, offrir le spectacle imposant des femmes de l'aristocratie anglaise, mais elle hésita niaisement entre d'anciennes traditions, fut dévote de force et cacha tout, même ses belles qualités. Aucune de ces Françaises ne put créer de salon où les sommités sociales vinssent prendre des leçons de goût et d'élégance. Leur voix, jadis si imposante en littérature, cette vivante expression des sociétés y fut tout à fait nulle. Or, quand une littérature n'a pas de système général, elle ne fait pas corps et se dissout avec son siècle. Lorsque dans un temps quelconque il se trouve au milieu d'une nation un peuple à part ainsi constitué, l'historien y rencontre presque toujours une figure principale qui résume les vertus et les défauts de la masse à laquelle il appartient. Coligny chez les Huguenots, les coadjuteurs au sein de la Fronde, le maréchal de Richelieu sous Louis XV, Danton dans la Terreur. Cette idée de physionomie entre un homme et son cortège historique est dans la nature des choses. Pour mener un parti, ne faut-il pas concorder à ses idées? Pour briller dans une époque, ne faut-il pas la représenter? De cette obligation constante où se trouve la tête sage et prudente des partis d'obéir aux préjugés et aux folies des masses qui en font la queue, dérivent les actions que reprochent certains historiens aux chefs de parti, quand, à distance des terribles ébullitions populaires, ils jugent à froid les passions les plus nécessaires à la conduite des grandes luttes séculaires. Ce qui est vrai dans la comédie historique des siècles est également vrai dans la sphère plus étroite des scènes partielles du drame national appelé les mœurs.